L'armée française doit-elle poursuivre sa mission là-bas, aussi loin? Pour quelles raisons? Quelle est votre opinion, Dominique de Villepin?
D'abord, la mort de nos 10 soldats, c'est une épreuve pour la nation tout entière. Et je pense, bien sûr, d'abord aux familles des victimes. Nous avons tous participé à cet hommage rendu par la nation au courage de nos soldats. Je crois qu'il est important de rappeler dans quelles circonstances nous avons été amenés à aller en Afghanistan. Au lendemain du 11 septembre 2001, il est apparu qu'un certain nombre de réseaux terroristes partaient de ce pays, du régime taliban, et la communauté internationale s'est mobilisée sur la base d'une coalition de volontaires avec un mandat des Nations Unies pour lutter contre le terrorisme dans ce pays et sécuriser la situation à Kaboul et participer à la reconstruction de ce pays. Voilà les missions qui nous ont été imparties. Un certain nombre d'évolutions ont été faites au fil des années, notamment en 2003, quand c'est l'OTAN, parce qu'il y avait d'énormes difficultés dans la coordination des différents groupes de volontaires, d'énormes difficultés dans la mise en place d'une direction stable pour conduire les opérations sur place. L'OTAN a été en charge de diriger ce système. Et malheureusement, en 2003, avec la guerre en Irak, l'effort qui avait été engagé en Afghanistan a été diverti de son objet principal, la lutte contre le terrorisme, et quelque part aussi obscurci. Obscurci parce que, à bien des égards, pour les populations locales, le message qui était adressé après l'Irak n'apparaissait pas avec la même force. Donc nous avons perdu peut-être de la concentration, perdu de la compréhension aussi dans la nature de l'opération qui a été engagée. Ce qui me paraît important aujourd'hui de rappeler, c'est la légitimité de l'action qui est menée en Afghanistan. C'est vrai que la lutte contre le terrorisme là-bas est justifiée. Et partir, se retirer au lendemain d'une opération aussi dramatique que celle que nous avons connue, ce serait le pire message que nous pourrions adresser aux terroristes, et ce serait sans doute aussi un message qui fragiliserait l'ensemble des participations françaises sur nos théâtres extérieurs. À partir du moment où on sait que la présence des troupes françaises est susceptible d'être modifiée par un drame de ce type, il est évident que les Français constitueraient une cible particulière. Néanmoins, il faut se poser les questions essentielles.
Lesquelles ?
Et en particulier, la question des priorités de notre action en Afghanistan et de la durée de notre présence là-bas. Je fais partie de ceux, et nous avions engagé avec Jacques Chirac une réflexion sur la durée de nos missions sur les théâtres extérieurs, et nous avions souhaité alléger nos dispositifs, y compris en Afghanistan. Nous l'avons fait en 2007 en retirant nos opérations spéciales parce que nous avons acquis la conviction qu'il fallait inscrire toute opération extérieure dans un calendrier. Au moment même où on intervient dans un pays, il faut se poser la question du retrait. Ne serait-ce que pour définir les bonnes stratégies qui, le moment venu, vont permettre ce retrait. Ce calendrier n'a pas évidemment à être public, mais il est nécessaire de se fixer des étapes, des objectifs, parce que plus le temps passe, plus la situation dans laquelle sont nos troupes, dans le cadre d'une intervention extérieure, devient difficile et fragile. Tout simplement parce que dans la durée, toute troupe étrangère dans un pays étranger devient, ou risque de devenir, ou être perçue comme une force d'occupation.
Mais là, nous sommes depuis 7 ans, et le sentiment général, c'est que les choses régressent, plutôt qu'elles ne progressent, donc on peut y être très longtemps.
J'ai cette conviction, depuis longtemps, que nous ne pouvons pas gagner militairement la guerre en Afghanistan. C'est un constat très important. Et nous avons, nous, Français, dans ce domaine, je dirais, beaucoup plus d'expérience que d'autres. La guerre d'Espagne que je relate à l'époque napoléonienne, la campagne de Russie, la guerre d'Algérie, l'Indochine, nous ont instruits de la difficulté, voire de l'impossibilité de lutter contre une guérilla dès lors que cette guérilla bénéficie d'un soutien croissant de la population.
Alors justement, parmi les priorités,
sommes malheureusement dans cette situation en Afghanistan.
Parmi les priorités, monsieur de Villepin, est-ce que vous ne pensez pas que je marque bout sur une vision comptable des choses, hein? Bon, ça coûte 300 millions d'euros par an à la France. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire davantage en aide civile? Vous venez de le dire, on est dans une impasse militaire. Est-ce que l'une des façons les plus idéales de lutter contre le terrorisme dans un pays comme l'Afghanistan, ce ne serait pas d'aider davantage les populations en leur montrant moins des fusils et des tanks.
Alors,
Paul Kiles, l'ancien ministre.
Non, mais vous avez tout à fait raison. Il y a plusieurs décisions à prendre sur le plan stratégique. La première, c'est que nous devons revenir à la conception initiale de lutte contre le terrorisme, qui est très différente du concept qu'ont imposé les Américains avec la guerre d'Irak, de guerre contre le terrorisme, qui, je le dis avec franchise, est une absurdité. Guerre contre le terrorisme, ça suppose qu'on peut gagner militairement contre le terrorisme. Lutte contre le terrorisme, ça veut dire qu'on utilise tous les instruments qui peuvent nous permettre de gagner contre le terrorisme. Et en particulier, vous avez raison, instrument du renseignement, instrument de la coopération financière, tous ces éléments-là doivent nous permettre d'être plus efficaces. Or, nous n'avons pas assez utilisé l'ensemble de ces moyens. Prenons un exemple, l'Afghanistan. La corruption liée au trafic de drogue, plus de 90% de l'héroïne provient de ce pays, qui permet aux talibans d'acheter des armes. Voilà un moyen efficace où il faut agir beaucoup plus fort et qui bénéficie de complicité au sein du régime de M. Karzai. Il faut être beaucoup plus exigeant vis-à-vis du gouvernement afghan pour être capable de démanteler ces filières qui bénéficient aujourd'hui de complicité à très haut niveau. Deuxième exigence, donc une stratégie de lutte contre le terrorisme globale. Deuxièmement, une stratégie régionale. Comment être efficace en Afghanistan dès lors qu'on n'intègre pas la situation du Pakistan? Et de ce point de vue-là, c'est vrai que nos pays, et en particulier les États-Unis, ont été coupables de soutenir un régime parce qu'il était ami des Américains, celui de M. Musharraf, sans véritablement ouvrir les yeux sur une réalité, c'est qu'à bien des égards, le Pakistan soutient les talibans en Afghanistan, c'est notamment vrai à travers les services de renseignement, donc il y a des complicités qu'il faut couper. On ne peut pas se battre sur le territoire afghan avec des gens qui, par derrière, luttent contre nos soldats. Donc, l'exigence d'une véritable stratégie régionale. Troisièmement, c'est la stratégie économique. Nous devons privilégier une stratégie de reconstruction, tout simplement parce que si nous voulons être efficaces, il faut que la population afghane se convainque que nous ne sommes pas des ennemis. Ça veut peut-être dire moins de troupes sur le terrain, davantage d'actions dans les provinces où nous pouvons le faire, parce que je ne suis pas naïf. Il y a des régions où c'est extrêmement difficile compte tenu de la sécurité. Et enfin, mettre en place une stratégie politique. Cette stratégie politique, elle a été insuffisante. Soutenir le régime de M. Karzai, ce n'est pas suffisant dès lors que ce régime n'est pas représentatif de ses forces et que nous nous retrouvons aujourd'hui à faire la guerre dans un pays avec une population qui soutient de plus en plus la rébellion des talibans. Et dans ces talibans, il y a à la fois les talibans fondamentalistes, terroristes, mais il y a aussi des talibans nationalistes qui, eux, veulent tout simplement rejeter un occupant extérieur. Trouvons les moyens et les clés d'une solution politique qui nous permettent d'agir de façon plus indirecte, d'établir ce calendrier de retrait de façon à ne pas nous enliser dans une guerre que nous ne pouvons pas gagner sur le terrain. Je crois qu'on ne doit pas demander à des militaires de se battre alors qu'ils ne disposent pas eux-mêmes de toutes les armes pour véritablement gagner.
Je vous comprends très bien sur la nécessité d'une stratégie politique, un peu moins bien sur le calendrier. Fixer un calendrier, c'est la meilleure indication à donner aux terroristes.
J'ai dit, Monsieur Moujotte, que ce calendrier ne devait pas être public. Il est évident que nous devons, nous fixer des étapes. Prenons la situation de l'Irak, qui est très instructive. On apprend au détour de déclarations.
Les Américains ne sont pas en train, petit à petit, justement, de gagner, Monsieur
Gilbert. Non. Alors, ils ne sont certainement pas en train de gagner, mais ils sont certainement en train de partir. En tout cas, c'est le vœu de l'administration Bush. Ils ont découvert que, faute de pouvoir marquer des points réellement sur le terrain contre les différentes tribus, face à une violence qui ne cessait d'augmenter, il fallait employer une stratégie politique. Ils ont décidé d'acheter ce qui leur tirait dessus. Ça permet peut-être d'acheter la paix, ça ne permet certainement pas de stabiliser les choses sur le terrain. D'autant que le moment venu, quand ils seront partis, l'ensemble de ces forces ne manqueront pas d'en découdre. Donc, momentanément, ils ont néanmoins découvert la nécessité de se mettre dans une solution de retrait. Je crois qu'on ne peut pas défendre un peuple malgré lui. Je crois qu'il faut responsabiliser les acteurs que l'on soutient et je crois que l'objectif central qui est le nôtre en Afghanistan, c'est pas la défense de la liberté et de la démocratie, la stratégie américaine en Irak a montré qu'imposer la démocratie était un leurre, c'est de lutter contre le terrorisme. Je crois qu'on peut lutter contre le terrorisme sans avoir nécessairement une implication aussi forte au sol dans l'ensemble du territoire afghan. Faisons en sorte de montrer dans les provinces où c'est possible que l'engagement de nos pays permet d'améliorer les choses. Il y a un exercice qui est nécessaire sur le plan de la pédagogie pour montrer que nous sommes soucieux d'améliorer la vie des gens, mais je pense qu'il faut éviter l'enlisement à tout prix.
Pour sortir de l'Afghanistan...
La Russie peut-être, Étienne ?
Plus généralement, avant d'arriver à la Russie, vous avez dit, c'est une conviction forte chez vous, nos principes structurent notre politique étrangère, l'indépendance et l'équilibre Est-Ouest, Nord-Sud. Est-ce qu'aujourd'hui, ces deux principes guident notre diplomatie ?
Alors, il guide notre diplomatie, oui. Est-ce que la mise en pratique de ces principes est toujours observée ? C'est un exercice difficile. Vous savez, c'est comme la diplomatie, c'est comme l'art de la guerre. Tout est question d'application, d'exécution. C'est un exercice difficile.
L'exécution n'est pas très bonne. Aujourd'hui.
Non, l'exercice est difficile. Moi, je ne donne pas de leçons, monsieur Apathy, c'est pas mon rôle. Il est difficile.
Et
si nous sommes là pour en parler, c'est pour essayer de faire en sorte d'améliorer les choses et de voir là où les choses peuvent être améliorées. Donc, d'apporter une contribution, tout au moins, sur le plan de la réflexion stratégique. Il est évident qu'une bonne diplomatie française, c'est celle qui est constamment accrochée à des principes. C'est celle où, justement, l'exercice d'application de la tactique diplomatique ne manque pas d'être en référence à ces principes. Prenons un exemple, puisque maintenant chacun s'emploie à le reconnaître. C'est vrai que dans la gestion de l'affaire chinoise, il eût sans doute mieux valu dire clairement les choses au début et s'y tenir. D'autres l'ont fait, la Grande-Bretagne, Madame Merkel, et le message est infiniment mieux compris par les Chinois. Dès lors qu'il y a oscillation, dès lors qu'il y a changement de pied, dès lors qu'il y a sentiment qu'il y a des marges de manœuvre, eh bien évidemment tout se concentre sur vous et la pression se fait encore plus forte et vous devenez le bouc émissaire. Ce qu'il faut éviter évidemment à tout prix. L'important, c'est le message que l'on passe, c'est le principe que l'on défend. Pour le reste, nous savons tous qu'il y a des résistances en matière internationale et que nos politiques, y compris en matière de droits de l'homme, ne sont pas des politiques faciles à défendre.